Ben, par affaire de la Shira. Les Bnei Israël sont donc sortis de Mitzraïm. Ils se sont retrouvés devant la mer, poursuivis par les Égyptiens. Et Hachem leur a dit que ce n'était pas le moment de prier. Il fallait avancer. Ce qu'ils ont fait, quand ils ont avancé, la mer s'est fendue. Et par conséquent, ils se sont donc retrouvés de l'autre côté de ce bras de mer ou de cette mer. Et pour la première fois, si vous voulez, on a affaire à une Shira. On a affaire à un chant. Et ce chant-là, il est chanté par Moshe Rabbeinu et en même temps que lui, a priori, ou avec lui, il y a des discussions pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont répondu, c'est Moshe qui chantait l'essentiel et les Bnei Israël ont répondu à une espèce de refrain permanent, ou ils ont tout chanté avec lui. Ce sont différentes façons de lire les choses. En tout cas, c'était une Shira. Et en même temps que c'est une Shira, dans le texte de la Torah, c'est écrit différemment. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit écrit un texte comme tous les textes, c'est écrit avec, si vous voulez, comme si une partie les psukim étaient en quinconce. Ça veut dire, comme quand on construit un mur de briques, on n'empile pas les briques. On fait une couche, et puis la couche d'au-dessus, elle est décalée un peu. D'accord? Bien, c'est la même chose. L'écriture est sur ce mode-là. En quelque part, on a aussi voulu rendre compte de cette Shira en choisissant un mode d'écriture différent de celui qu'on a pris pour dire les choses, toutes les autres choses. On n'a pas choisi de les dire, jusqu'à présent, on n'a encore jamais vu qu'on ait changé on aurait pu imaginer, je ne sais pas, que pour le récit du rêve de Yaakov ou bien de l'alliance entre les morceaux, qu'on ait choisi une façon différente de présenter les choses, présenter le texte, il n'en est rien. Maintenant, pour la Shira, oui. Pour la Shira, on a choisi une façon différente de présenter le texte. C'est réminiscent, si vous voulez, de la construction d'un mur, a priori en briques. Donc, c'est ce que les Bnei Israël ont fabriqué quand ils étaient en Égypte. Et puis, cette façon de construire le mur, c'est la façon la plus solide. Bon, c'est plus solide que d'empiler les briques, qu'on peut aussi faire, mais un mur, les bons murs, ils sont construits sur ce système-là avec décalage. Donc, ça veut dire que le texte représente quelque chose de très solide. Quelque chose de particulier. Alors, ce que je voudrais voir un peu avec vous, c'est regarder un peu le contenu de cette Shira. Alors, ça commence. Donc, c'est le chapitre Tet Vav, c'est un chumash, donc. Au début du chapitre Tet Vav, chapitre 15. Az Yashir Moshe, Uvne Israël et Ashira Azot, La Hashem, Vayomru les morts, Ashira la Hashem, qui Gao Gaa, Sus Verochmo, Rama Vayam. Alors il y a beaucoup de choses. Ça commence par Az. Alors Az, a priori, ça veut dire alors. Mais c'est un alors qui porte normalement, quand on dit as, c'est un alors au sens de, on fait référence à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Oh, c'est un peu étonnant parce que le verbe qui suit immédiatement as, il est au futur. Yachir, Moshe. Donc ça veut dire que on parle non pas ici dans ce texte de ce que Moshe a chanté, mais on parle de Moshe qui va chanter dans le futur. Moshe n'a pas chanté dans le futur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, ce futur? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, regardons Rashi, comme d'habitude. Az, Rashi dit, Kesheraa Hanes. Quand Moshe a vu le miracle, c'est que la mer s'est fendue. Quand les Bnei Israël sont entrés dans entrés dans la mer et qu'ils n'ont plus pu avancer parce qu'ils avaient de l'eau jusqu'au nez, alors la mer s'est fendue. Ce miracle-là s'est redoublé, si vous voulez, d'autres miracles parce que ça ne s'est pas fendu d'un seul tenant, mais comme on l'a déjà dit souvent, ça s'est fendu et ça a dégagé 12 canaux, un canot par, un canal, pardon, 12 canaux, un canal par tribu. Donc, en fonction des 12 tribus du clan Israël. Et donc, quand Moshe Rabbeinu a vu ce miracle, Allah belibo shiyashir shira. Il a eu envie et monté en lui. Je vais chanter maintenant. Alors c'est intéressant parce que des miracles, Moshe en a vu pas mal. Il était l'artisan d'une grande partie de tous ces miracles qui se sont qu'Hachem a manifestés en Égypte. On ne nous dit pas qu'à ces miracles, devant ces miracles-là, il a chanté. Pourquoi devant ce miracle-là, est-ce qu'il éprouve le besoin de chanter? Alors Rashi continue et dit, Vechen az yedaber Yoshua. Alors Yoshua a ressenti le besoin de parler à un autre endroit. Vechen, pardon. Et Rashi ramène d'autres sources. Alors ici aussi, dit Rashi, Afkan, Yashir, Amarlo, Libo, Sheyashir, Vechenasa. Donc Rashi dit que c'est littéralement, si on pense que Rashi a dit, le cœur de Moshe lui a soufflé. Il faut chanter maintenant. Intéressant, c'est et c'est son cœur qui lui a soufflé. Donc il y a eu quelque chose, une espèce de une nécessité de chanter. Pourquoi chanter? Qu'est-ce qu'il y a dans chanter de plus que de parler? Bon, qu'est-ce que ça apporte de chanter plutôt que de parler? Rachid a cité un autre cas, Az Yedaber Yoshua. Yoshua, lui, il n'a pas ressenti le besoin de chanter, mais de parler. Donc là-bas, Rachid ramène ça à cause du Az. Alors, il nous dit que quand il a vu quelque chose, il a vu ce qui se passait, Moshe. Il a vu le miracle. Alors, il a ressenti un impératif besoin de chanter et il a chanté. Alors, je me demandais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le qu'on appelle le chant? Alors, je ne sais pas si le chant de Moshe était un chant avec de la musique. Parce qu'on peut très bien penser que le chant, c'est simplement une indication de poésie, un chant dans un poème. On appelle ça un chant. Il n'y a pas de musique obligatoirement. A priori, vous savez que quand les hommes ont eu fini de chanter, le passage nous dit que Myriam, elle a entraîné les femmes à chanter. Les femmes ont chanté. Et prenez le verset. Alors, Vatikar Myriam, le verset 20, verset 4. Vatikar Myriam Anvia, Achot Aaron, et Tatof Beyada, Vatetsena Kol Anashim, Achareha, Vetupim Uvimcholot. ותען להם מרים שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. Donc, le pasouk nous dit que quand les femmes vont chanter, elles vont chanter avec des instruments de musique. Un tof, ça veut dire, c'est un tambourin, quoi. Et de là, on apprend d'ailleurs que les femmes avaient un tambourin. Toutes les femmes, visiblement, elles avaient des tambourins. Ça veut dire que quand elles sont sorties d'Égypte, elles ont pris avec elles des tambourins. On part comme ça à toute vitesse. Comment se fait-il qu'ils aient pensé, elles ont pensé à prendre des tambourins? Pardon? Alors, bon, c'est le décor. Alors, Myriam, peut-être que là-bas, en Égypte, elle avait ouvert une école de musique, je ne sais pas.
Ça prouve que ça correspondait à des moments extrêmement importants.
Pardon?
Et ça fait penser que ce tambourin participait à leur vie d'une manière impérative.
Oui, alors c'est le problème. D'abord, Rachid, il reste pas sur le tambourin. Il dit clé chez le miné zemer. Ça sert à toutes sortes de musiques, de toutes sortes de zemer. Zemer, c'est. A priori, on va dire que c'est de la musique, c'est des airs de musique. Alors Rashi dit, si vous avez le Rashi, Betupim uvim cholot, muftachot hayu tzadkaniot shebador, ça veut dire que Rachid dit que les femmes, elles avaient confiance qu'Hachem allait leur faire des nissim, des miracles. Attention, on va sortir là-bas, sortir d'Égypte, et il y aura lieu de se réjouir. Il y aura lieu de chanter, de faire de la musique. veux dire, c'est une grande confiance en HM. Ils ont décidé d'emblée que non seulement ils allaient sortir d'Égypte, mais qu'elles auraient des raisons de se réjouir ou faire de la musique. Je reviens sur le sur Az-Yashir. Les Chachamim, ils ont entendu dans ce Az-Yashir, alors il chantera. Rashi nous a expliqué pourquoi ce futur. L'espèce, ça s'est fait en deux temps, quoi. Il a vu le miracle, il a eu un irrépressible besoin de chanter, et il a chanté. C'est ça le futur. Mais nos maîtres ont lu qu'il y avait un vrai futur là, et qu'on est en train de nous dire que Moshe, il va rechanter, il va chanter par la suite. Et donc de là, on apprend que Moshe Rabbeinu sera celui qui va guider les Bnei Israël à la fin des temps, et qu'à la fin des temps, Moshe Rabbeinu, il rechantera de nouveau. Et de là, on apprend que Moshe Rabbeinu va être partie prenante de la sortie, enfin de la Géoula finale, c'est-à-dire qu'il va y avoir, puisqu'on va dans la Torah, on va nous dire que Moshe va disparaître à la fin, il va mourir. Et donc, si on dit qu'il va être partie prenante à la fin du temps, c'est qu'il y a un problème de... Il y a résurrection. La résurrection, c'est un des points fondamentaux d'après Rambam. Pour Rambam, c'est un des axiomes qu'on doit, ce qu'on appelle les articles de foi, peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en gros, ça fait partie des Shloshes Remidot, pardon, des Shloshes Ikarim, les 13 points fondamentaux. Pour Rambam. Et donc, un des points, c'est qu'il y aura Triat HaMetim, il y aura résurrection. Et on demande où est-ce que dans la Torah on voit ce problème de la résurrection. Il n'y a pas de verset qui dise explicitement cette résurrection. Et une des sources, c'est ce verset-là. Ce verset qui dit que Moshe chantera. C'est-à-dire qu'il y aura résurrection. Donc c'est un des nombreux points, si vous voulez, où quelque chose se fait au moment de la sortie d'Égypte, et qui est un modèle pour ce qui va se faire à la fin des temps. La Géoula finale sera sur le modèle de la Géoula première, c'est la Géoula naissance du clan Israël, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Ça, c'est un des points. Il y aura aussi Moshe qui va chanter. Alors, ensuite, bon, Rashi parle longuement ici. Rashi le dit dans la suite de Rashi, vous avez Aval Midrashu, le Midrash de ce verset, c'est que Amrou Chazal, Mikan Remez, le Triat HaMetim min haTorah. Que ici, on a un Remez, une allusion à. Au fait que Triat HaMetim, c'est un principe fondamental de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit On n'a pas répondu encore à la question de qu'est-ce qu'il y a de plus dans un chant? Le chant, a priori, c'est la façon la plus riche de parler. Vous avez, au-delà du sens des mots, vous avez encore un sens supplémentaire qui vient de la construction du poème en question. Et si c'est avec de la musique, c'est encore mieux. Il y a encore d'autres choses qui sont dites grâce à la musique. Donc le chant, c'est l'expression la plus forte, par la bouche en quelque sorte, de ce, l'expression la plus forte.
Il n'a pas pensé chanter, ça a chanté.
Non, mais il a eu envie de chanter et il a chanté. Parce que, comme ça, Rachid a dit. Alavelibo, Lachir, Béchar. Et il a chanté.
Donc,
Il a?
il a mentalisé pour construire.
Oui, bon. Il a eu envie de chanter et il a chanté. Alors, qu'est-ce que. Le problème, c'est. Moshe a chanté. Où venait Israël? Lui est l'Ibn Israël. Alors, bon, a priori, ils ont chanté en même temps, donc ça veut dire qu'ils étaient. C'est un cas de figure où le clan Israël tout entier est inspiré de la même manière jusqu'à produire un chant qui n'a pas été répété. Ils n'ont pas de livret pour chanter. Bon, les paroles ne leur ont pas été dictées. Ça veut dire, ça a chanté dans le clan Israël, quelque chose de l'unité du clan Israël se manifeste dans le fait qu'ils ont chanté en même temps que Moshe Rabbeinu. Ou Bnei Israël. Ça veut dire, Bnei Israël aussi ont chanté. Alors, si vous voulez bien revenir un tout petit instant sur le verset Kaf, où Myriam a entraîné les femmes à chanter. Alors, Rashi fait remarquer d'abord clairement que quand Myriam les incite à chanter, c'est Myriam en tant que prophétesse. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de nous dire qu'elle est prophétesse au moment où elle chante? Rachid demande, où est-ce qu'on sait qu'elle est prophétesse? C'est quand la Torah nous a dit que Myriam, qui était la sœur d'Aaron, en tant que petite fille, avant que bah, celle qui a incité son père et sa mère à se remarier, et elle avait dit, Atida imi shetelet ben, ma mère, elle va mettre au monde un enfant qui va être le libérateur des Bnei Israël. Et alors, elle a dit aux femmes, dans le verset Kafaref, Vata'an lahem Myriam. Myriam s'est adressée aux femmes. Alors, c'est pas complètement sur le même modèle que Moshe. Moshe Amar Shira l'Anashim. Moshe, il a incité les hommes à chanter. Mais comment? Amar. Pardon, Hu Omer, Vem Onim Acharav. Comment ça s'est passé? Moshe a chanté et eux, ils ont répondu après lui. Alors, il y a deux lectures dans Hazal, ou bien ils ont répété ce que lui, il avait dit, ou bien ils vont répéter sans arrêt Hashem, Hashem. Je chanterai pour Hashem. Mais il dit ça, Moshe, il raconte, il va dire tous les versets de la Shira. Chaque fois que lui il dit un verset, eux ils disent Hashira l'Hashem. Mais ils n'ont pas chanté en même temps que Moshe. Et au mieux, il y avait un dialogue en quelque sorte. Ils étaient sur le mode de la réponse à ce qu'avait dit Moshe. Mais Rachid dit, ou Myriam, elle a dit Shira l'Enashim. Elle a dit aux femmes, chantons. Chantons ensemble. Donc ça veut dire que chez les femmes, c'est sûr qu'elles ont été inspirées pour dire la même chose que Myriam en même temps qu'elle. Alors, elles, peut-être qu'elles ont répété la Shira des hommes. Donc, si vous voulez, ce n'était pas complètement nouveau, mais bon, c'est une longue Shira et elles ont mémorisé, ou bien, en tout cas, elles étaient suffisamment inspirées pour chanter en même temps que Myriam. Et comme Myriam était prophétesse, quelque part, si elles disent la même chose qu'elle, c'est comme si c'était des paroles, elles ne sont pas prophétesses, mais c'est des paroles analogues à celles qui sont prononcées par une prophétesse. Donc, c'est un niveau plus élevé. Et en plus, il y avait de la musique. Bon, alors on revient à ce que Moshe disait. La Shira, il la chante pour Hachem, pour le tétragramme, pour le grand nom d'Hachem, si vous voulez. Tout ce qui s'est passé avec l'ouverture de la mer, etc., ça s'est fait avec Hachem, c'est avec le tétragramme. C'est pas Elohim, par exemple. C'est Hachem. Bien que la guerre, ce qui s'est passé, c'est une guerre. N'est-ce pas? Les Égyptiens ont poursuivi les Bnei Israël ou bien les faire prisonniers et les ramener en Égypte comme esclaves. Et ça n'a pas marché. Mais parce qu'Hachem les a tués. Or, Hachem, c'est le nom divin qui indique normalement ce qu'on appelle le Rachamim, qui indique la tendresse. La guerre, on s'attendrait plus à ce qu'elle soit menée avec le nom divin Elohim, qui est la rigueur, qui est, d'accord? C'est Elohim qui va frapper les Égyptiens. Mais c'est un processus où les Égyptiens disparaissent, mais c'est pas qu'on frappe les Égyptiens en tant que tels. C'est Hachem sort les Bnei Israël. Et dans ce processus de sortie des Bnei Israël, il faut éliminer les Égyptiens. Et donc ça se fait avec le tétragramme, avec ce nom qui, a priori, est un nom de Rachamim. Vayomru. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayomru, les morts. Ils ont dit, pour dire, en fait. Normalement, les morts, c'est pour redire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait là à redire? Ils ont dit, on peut dire qu'ils ont redit. Ils ont dit, pour pouvoir le redire, peut-être que c'est justement cette répétition. Après que Moshe ait parlé, il répète la même chose que Moshe a dit. Mais bon, c'est pas très évident comment il faut comprendre les morts ici. Bon, il y a quelques endroits où effectivement, Les morts, c'est comme si, au fond, comme si, pour qu'on puisse donner du sens au mot les morts, il faudrait dire que chacun s'est senti devoir le dire à son prochain. Ils se sont dit, qu'on a dit, mais ils le disent, chacun le dit à l'autre. Comme on dit dans la prière du matin, que les anges se disent les uns aux autres la Kedusha d'Hachem. Là aussi, probablement, il faut l'entendre comme ça. Et alors, Ashira l'Hachem, je chanterai pour Hachem. Ça veut dire que on a annoncé que c'était qu'il allait chanter. Et le chant, c'est je chanterai pour Hachem. Ashira l'Hachem. Le chant, c'est de dire je chante pour Hachem, si vous voulez. Et pourquoi je chante pour Hachem? Ki gaoga. Ki gaoga. Qu'est-ce que ça veut dire, Gao? Onkelès traduit It Gae al Geftanaya, Vigiuta Dile. C'est-à-dire, Gao, c'est la Gava, c'est l'orgueil. Je chante pour Hachem parce qu'il s'est enorgueilli. Le cheval et son cavalier, il les a élevés au-dessus de la mer pour les précipiter au fond de la mer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gaava, d'orgueil. Alors, je crois qu'on a déjà dit quelques fois que l'orgueil, c'est un très très vilain défaut. C'est même un défaut absolument impardonnable, si vous voulez, parce que l'orgueil, c'est se prendre pour Hachem. Alors Hachem, il peut se prendre pour lui. La gava, elle n'appartient qu'à Hachem. Et la gravité de la gava chez les hommes, c'est qu'ils se prennent pour Dieu. Donc ici, Hachem a montré qu'il était de droit, ou si vous voulez, qu'il a manifesté qu'il était vraiment le maître. Gaoga, il a étalé en quelque sorte sa toute-puissance. Étalé, le fait qu'il choisissait cela, il tuait cela, etc. Gaoga, Rashi, il a pensé qu'il fallait comprendre, il faut comprendre que Targumo, comme je vous l'ai traduit, c'est un problème de Gava. Et là maintenant, pourquoi ce redoublement? Pourquoi Gaoga, on aurait pu dire, Ashira l'Hachem qui Gao? Pourquoi Gaoga? Alors Rashi dit, dans un Davar Acher, c'est une autre explication, il dit que ce redoublement, il vient dire qu'Hachem a fait quelque chose qui est absolument impossible à faire pour un être de chair et de sang. Normalement, quand on se bat, dit Rashi, Avec quelqu'un qui est un cavalier, il faut faire tomber le cavalier de sa monture. Mais là, Hachem, il a pris le cavalier et enfin, le cheval et le cavalier. Il les a Rama, Bayam, il les a élevés au-dessus de la mer. Et ça, c'est impossible à faire pour un homme normal. Et c'est ça le lachon de Géout. C'est ça la manifestation de la toute-puissance. L'Hachem. Le Ren a dit, Kolashira, tu trouveras que dans toute la Shira, il y a cette idée de ce doublon, enfin, ce redoublement plutôt. Imatsek Kula, Ozib Zimratka, Vaili Lishua, Hachem Ish Milchama, Hachem Shemo. Toujours des espèces de doublons. Ren Kulam. Tous verrochvo, donc le cheval et son cavalier. Rachid dit, Shnem kshurim zebeze, les deux attachés l'un à l'autre, en fait. Ve'amayim ma'alin otam, et les eaux les soulèvent, ou moridim otam le omek, ve'enan nifradim. Et on les plonge au fond de l'eau, ils sont toujours attachés l'un à l'autre. Le cavalier, il fait un avec son cheval, et il meurt avec son cheval. Alors, Rama, Rachid dit, les a élevés, donc, il a jeté, hein, soulevé et jeté. Bien. Alors maintenant, ça, c'est, on a décrit ici la gava d'Hachem. Il mourait avec son cheval. Mais il mourait pas simplement qu'il était couvert d'eau. Il était d'abord soulevé pour être plus il tombe de haut, plus il va aller profondément. Et le deuxième verset, Aziv Zimratka, Vahili Elishua. Ze Eli, Beanveu. Donc, Avi va revenir. C'est-à-dire, il est ma force. Et alors, Zimrat Ka, je ne vais pas le traduire tout de suite. Vahili Elishua. Il a été pour moi un sauveur. C'est toujours qu'on peut montrer du doigt. Ils ont montré du doigt, ils ont dit, c'est lui, mon Dieu, en fait. Ve'anvehu. Alors là aussi, on va voir, on va pas traduire tout de suite. Il est Avi, c'est le Dieu de mon père, va Romenu et je vais l'élever. C'est-à-dire, je vais l'élever. Comment je peux l'élever? Alors, l'oncle va dire, je vais l'élever, c'est-à-dire, Veflach. Comment est-ce qu'on élève Hachem? C'est en le servant. Si on se met à son service, il s'en trouve élevé. Alors, c'est un verset compliqué. Bon, il est ma force. Bon, là, On comprend bien? Mais le problème, c'est le mot de Zimra. Comment est-ce qu'on traduit ce Zimra? Le Rashi ramène la traduction. Donc le c'est grammaticalement, il n'est pas d'accord avec lui. Il dit que ça ne colle pas bien avec la ponctuation, en fait, avec les nekoudot. Bon, alors ensuite, éventuellement, il va utiliser le uzo ve nikmato. C'est ma force et c'est aussi sa vengeance. Mais je voudrais suggérer une autre lecture. Le mot Zimra, connaissez, dans Zimra, il y a Zemer. Et Zemer, c'est justement un chant. Zemer, c'est un nigoun, c'est une mélodie, un chant. Mais c'est difficile, qu'est-ce que ça veut dire? Il est ma force et le chant, le K, le Yud-Heh, c'est un nom divin, a priori. C'est le début du tétragramme, mais c'est déjà un nom divin pour lui-même. Comme on le trouve, par exemple, dans Alleluia, si on considère Alleluia, et puis ensuite Yud-Heh. D'accord? C'est-à-dire, est loué. Si on dit que Alléluia, c'est comme ça qu'il faut le lire, ça c'est aussi une discussion. Donc, c'est quoi le Zemer d'Hachem? Le Zemer du Dieu, en fait. Et il a été pour moi un sauvetage. La suite du verset, c'est qu'il va enlever ce verset-là, cette partie du verset, il dit, il est mon Dieu, et je vais, alors, comment est-ce qu'on va le dire? Rashi dit, il ramène comme toujours, ici il ramène toujours Onkelès, qui dit que Anveu, c'est la chaune Neve, comme dans Neve Sha'anan, il Vetson. Et puis il y a une autre lecture qui dit Vanveu, la chaune Noi, la beauté. Je vais l'embellir, en fait. Il est mon Dieu et je vais l'embellir. De ce verset-là, on apprend la mitzvah de Hidour. Dans la Torah, on a 613 mitzvot. Et donc, il y a une certaine façon de faire la mitzvah. Alors, on nous dit, voilà, si tu fais comme ça, tu as bien fait, tu t'es acquitté de ce que tu fais. Attends, on peut avoir envie d'embellir la mitzvah. Concrètement, ça peut être tout à fait matériel. Ça peut être pour allumer les Nérodes de Shabbat, on peut prendre simplement une pose de bougie dans une demi-pomme de terre et ça va très bien. C'est un très bon bougeoir. Mais on peut aussi prendre un bougeoir en argent ou avec des décorations, etc. Et ça, c'est embellir la mitzvah. En faire plus qu'on est obligé d'en faire, de telle sorte que la mitzvah soit un moment aussi esthétique, un moment de beauté, c'est quelque chose de beau à voir. Là, on va faire, par exemple, on va écrire le Sefer Torah de façon très très belle. Il y a des écritures plus ou moins belles. On va acheter le manteau du Sefer Torah, on va en acheter un très beau, et on va faire le rideau du Aron HaKodesh, on va mettre n'importe quel rideau, aussi mettre un rideau plus ou moins beau, plus ou moins chargé de décoration, etc. Ça s'appelle Hidur Mitzvah, embellissement de la Mitzvah. C'est de ce verset-là qu'on apprend qu'il y a un sujet qui s'appelle Hidur Mitzvah. Bon, c'est intéressant parce que ça n'est pas dire, je vais, le passouk aurait pu, la Torah aurait pu dire, je vais embellir les mitzvot. Bon. Mais là, on ne dit pas, je vais embellir les mitzvot, il est mon Dieu et je vais l'embellir. Comme si d'embellir les mitzvot, c'était une façon d'embellir le Dieu. Mais on ne peut pas embellir le Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut embellir que les mitzvot. Mais c'est quand même étrange de formuler de cette manière-là. Comme si on pouvait embellir. Bon, ça c'est une des lectures. Noi, embellissement. Maintenant, dans ce Anvehu, on peut entendre quelque chose d'autre. On peut entendre dans Anvehu, Ani Vehu, moi et lui. Il est mon Dieu, moi et lui. Ce que ça veut dire, moi et lui, ici. Alors ça, c'est un sujet très, très important, très, très discuté, si vous voulez. D'ordinaire, on dit toujours qu'on ne peut rien donner à Hachem puisqu'il a tout par définition. Donc je ne peux rien lui donner. Donc la relation entre l'homme et Hachem est une relation, d'une certaine manière, à sens unique. C'est lui qui n'arrête pas de nous donner, et ben nous, on ne peut rien lui donner. Néanmoins, dans les Sfarim, on explique que Hachem a voulu que nous devenions, d'une certaine manière, son associé. Et en tant qu'associé, les deux associés vont se donner l'un à l'autre des choses. Ils vont échanger. Ça a donné lieu à un principe qui s'appelle, qui se dit plutôt que il y a un tsorer gvoa, il y a une avoda. Sorer Gvoa. Littéralement, ça veut dire le service d'Hachem, c'est une nécessité, Sorer Gvoa, pour l'en haut, pour Hachem. Comme si, en le servant, nous lui donnions quelque chose. Alors, effectivement, il y a une espèce d'association. Hachem a créé le monde de telle sorte que la façon dont Hachem va guider le monde, diriger le monde, dépend de la façon dont nous allons voir le monde et dont nous allons recevoir ce que Hachem donne au monde. Au point que, David Ameller, d'autres textes disent, par exemple, on dit, Hachem Tzilcha. Hachem est ton ombre. L'ombre, elle fait ce que celui dont elle est l'ombre fait. Il lève le bras, l'ombre, elle lève le bras. Donc c'est Hachem qui est Tzivcha. Bon, c'est pas que toi tu es l'ombre d'Hachem. Bon, le texte il dit c'est Hachem qui est ton ombre. C'est-à-dire qu'Hachem a décidé, pour des raisons que nous ne connaissons pas, qu'il a décidé qu'il allait gouverner le monde en fonction de la conduite des hommes. Donc, il va être l'ombre. Alors, on a vu très récemment, on a vu un cas de figure où Hachem a pris modèle sur l'homme. Vous vous souvenez? C'est Hachem qui prend modèle sur Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu a changé la moitié de la nuit en jour pour éviter que Lot souffre une nuit de plus, quand il a fait la guerre pour aller libérer Lot, il a fait la guerre la nuit. Et normalement, à ce moment-là, on ne faisait pas la guerre la nuit. Donc, mais Abraham a dit, si je fais pas la guerre la nuit, alors Lot va souffrir une nuit de plus. Donc, je vais faire la guerre la nuit. Et Hachem a dit à Abraham, puisque toi, tu as changé la nuit en jour pour éviter la souffrance de Lot, moi, je ferai la même chose pour tes enfants. Et quand est-ce que Hachem l'a fait pour les Bnei Israël? Il l'a fait le même soir. À la même date que ce qu'Abraham Avinu a fait. Dans ce qu'Abraham Avinu a fait, il a changé la nuit du 14 au 15 Nissan en jour, la première moitié de la nuit. Et Hachem a fait, il a transformé en jour la deuxième moitié de la nuit sur le modèle de ce qu'a fait Abraham Avinu. Et la deuxième moitié de la nuit du 14 au 15 Nissan, vous savez bien ce que c'est la nuit de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que pendant la sortie d'Égypte, pendant la nuit de la sortie d'Égypte, on y voyait comme en plein jour. Oui, Charlie. L'autre est. Oui, si vous voulez. Ça fait jouer un rôle important à Lot. Là, l'important, c'est le fait d'avoir copié, d'avoir eu une telle empathie avec Lot, bien que Lot se soit séparé de lui, etc., qu'il ait plus ou moins mal tourné, etc., puisqu'il est devenu Sodome. Mais bon, Abraham avait une grande dette par rapport à Lot, parce que Lot ne l'a pas dénoncé quand ils étaient en Égypte. Lot aurait pu dénoncer Abraham comme en disant qu'Abraham n'était pas du tout le frère de Sarah, mais son mari. Et à ce moment-là, on aurait tué Abraham. Lot aurait été couvert de cadeaux, parce que c'est lui le frère de Sarah, ce qu'il était vraiment. C'était vraiment le frère de Sarah. Et donc, il aurait pu jouer sa carte. Et il a rien dit. Il a couvert Abraham. Ça a créé une dette de reconnaissance. Bon, maintenant, par ailleurs, Lot a été complètement pris en charge en son temps. Lot, comme Sarah, c'était des orphelins. Ils ont perdu leur père très tôt. Et donc, Abraham s'est occupé de Lot. Alors ici, on voit que on a un verset qui nous dit Zekeli vandehu. D'accord? Je vais, Zekeli, il est mon Dieu, mais il va y avoir une relation Ani vehu, moi et lui. Ani vehu. Un niveau, c'est une chose qu'on dit ça dans les hakafot de Hoshana Rabba et de Simchat Torah. On parle beaucoup de Ani Vehu, une espèce de rencontre, de shoot-foot entre Hachem et l'homme. Il est Eloqué à vie. Il est le Dieu de mon père. En quoi est-ce que, pourquoi il a dit le Dieu de mon père? Rashi dit une drôle de chose. Rashi dit, Eloqué à vie, lo ani trilat akdusha. Et la mourzeket veomedet li akdusha velakuto alai mi me avotai. Moshe Rabbeinu, ici, il dit quelque chose. Il dit, je ne suis pas le début de l'Akdoucha. D'accord? L'Akdoucha, toute cette Kedusha, donc toute cette relation avec Hachem, je l'ai connue grâce à mon père. C'est mon père et mes ancêtres qui ont établi cette relation. Moi, je m'inscris dans la continuation de la relation. Le fait qu'Hachem soit le Dieu, il joue le rôle du Dieu pour mon père, et donc il l'a déjà joué pour mon père, et moi, et ça continue avec moi. Mais il y a un accent ici sur le fait que je ne suis pas l'inventeur. Dans la bouche de Moshe, on comprend très bien avec tout ce que les gens disent, toujours que Moshe est le législateur, que c'est lui qui a inventé les choses. Ici, il dit clairement dans la Shira, ce que je fais là, je l'ai déjà reçu. Je l'ai reçu. Je ne suis pas la source de l'Akdoucha. Je ne suis pas l'inventeur de l'Akdoucha dont on va parler dans toute la Torah et qui se manifeste ici. Cette Kedusha-là, elle existait déjà chez mes ancêtres. Moi, je ne suis que le continuateur de cela. Mais, néanmoins, Arom Amenu, c'est-à-dire, moi, on va dire comme Onkelès, je vous ai dit, Onkelès, il a traduit Eflar Kadmoï, c'est-à-dire, je vais le servir. Je sers le Dieu de mon père. Donc c'est comme si, bon, ça veut dire que c'est très intéressant parce que concrètement, Moshe Rabbeinu, son père, il l'a très peu connu. Hein. Son père, il l'a connu éventuellement quand il avait, dans les 2 premières années de sa vie, quand il était nourri par sa mère. Il a dû voir son père, mais après, il ne l'a plus jamais vu. Ensuite, il a été élevé dans le palais de Paro. Peu vraisemblable qu'il ait été rendre visite à ses parents à ce moment-là. Donc, son père, il ne l'a pas beaucoup vu. Néanmoins, c'est quand même de mon père que j'ai les choses. Ça veut dire que quelque part, le Dieu de mon père, c'est lui que je vais servir. Donc, je ne sers pas non plus un Dieu que j'ai inventé en quelque sorte. Je ne sers pas un Dieu qui n'a commencé à se manifester qu'à moi. Il s'est manifesté à moi, mais en tant que le Dieu de mon père. Quand il m'a parlé la première fois, il a dit, je suis le Dieu de ton père. Alors, être le Dieu de mon père, être le Dieu d'eux, ça veut dire que je prends soin, c'est-à-dire le Dieu en question, il prend soin de celui dont il est le Dieu. C'est C'est les valeurs de référence de la personne, mais c'est aussi une Ashgaha, une providence particulière qui vient de ce Dieu qui donne, qui s'occupe, s'est occupé de mon père et quelque part, et il s'est occupé de moi aussi. Et ce que dit Moshe, c'est s'il s'est occupé de moi, c'est probablement à cause de mon père. Parce que Moshe, il est un âme, il ne pense pas qu'il a fait quelque chose, lui, par lui tout seul. Hachem s'est adressé à lui, tout à coup, il lui a parlé en tour de blue. Hein. Et donc, c'est lui que je vais servir. Et donc, il faut comprendre que ou bien Moshe fait ici une espèce de discours dans lequel il annonce effectivement qu'il va servir Hachem, etc. Et il annonce tout ça aux Israël qu'ils l'entendent et qu'ils participent, qu'ils disent nous aussi on va. Ou bien alors, eux aussi, s'ils répètent la même chose que complètement les paroles de Moshe, ça veut dire qu'ils reprennent à leur compte aussi. Eux aussi disent, Elokeavi, on va servir ce Dieu-là parce qu'il est lui aussi le Dieu de nos pères, de notre père. Chacun disant notre père, ça veut dire en fait, ils sont les descendants de Yaakov comme Moshe. C'est le même père, donc le même Dieu en fait. Mais évidemment, ce Dieu ne leur a pas parlé à chacun comme il a parlé à Moshe. Mais néanmoins, il les a pris en charge, il les a sortis d'Égypte. Et a priori, c'est intéressant, a priori, ce que Myriam a fait avec les femmes, c'est le même genre de discours. Donc c'est dit au féminin de la même manière qu'au masculin. Pardon?
La chair s'arrête à partir du moment où on voit plus la.
Elle dit pas tout le reste. Elle leur dit chantons, et puis elle dit le début. On suppose que du contexte, on a l'impression qu'elles ont chanté toute la Shira, mais la Torah, elle ne l'a pas réécrit une deuxième fois. Donc on a un événement gigantesque, qui est au fond la véritable sortie d'Égypte, puisque maintenant on en a fini avec l'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, l'Égypte existait encore. On n'y était plus, mais elle existait, elle était dans toute sa force. Maintenant, l'armée égyptienne, donc essentiellement toute l'Égypte, est à genoux. Donc on n'a plus rien à voir avec l'Égypte. Donc c'est ça la vraie sortie d'Égypte. C'est le Shvi'i et le Pessah. C'est le septième jour de Pessah. Septième jour de Pessah, d'une certaine manière, physiquement, disons, le septième jour, il est appelé Atseret. Atseret, c'est la clôture. On a déjà dit souvent qu'à Pessah, il y a deux clôtures. Il y a une clôture de ce qu'on appelle Hagamatzot. C'est juste que Pessah, c'est un nom qui, en fait, est vraiment adéquat seulement pour le premier soir où on mange le Korban Pessah. Déjà, dire le premier jour que le premier jour tout entier est Pessah, c'est déjà un abus. Mais d'appeler Pessah tous les 7 jours, alors que À part le premier soir, il y a une mitzvah de manger des matzot. Et encore, il n'y a pas d'obligation de manger des matzot. Si tu veux manger du pain, tu dois manger des matzot. Mais si tu veux, il n'y avait pas encore fermentier, donc si tu veux manger autre chose, je ne sais pas quoi d'ailleurs, ben tu peux. Peut-être qu'à ce moment-là, on pouvait manger des légumineuses qui ne ressemblaient pas trop au blé, je sais pas. Mais tu n'es pas obligé de manger, même des matzot. La mitzvah de manger des matzot, c'est seulement le premier soir. Et donc, on a une aseret par rapport au jour où il faut manger des matzot si on veut manger du pain. Et puis, il y a une deuxième aseret qui, elle, a lieu 50 jours plus tard. Enfin, 50 jours à partir du premier soir. Et qui est Shavuot, qui est Matan Torah. Ça, c'est la aseret spirituelle, si vous voulez. La tseret de Pessah, pas la tseret de Fagamatzot. Mais le Shvi le Pessah, qui est le passage de la mer, c'est la tseret de Fagamatzot, la fête des Matzot, c'est-à-dire matériellement. Et donc ici, parce que physiquement, voilà, physiquement on est sorti d'Égypte là. On a mis entre nous et l'Égypte, on a mis la mer, mais même plus que ça, on a détruit l'armée égyptienne. On a. Hachem a détruit l'armée égyptienne. Voilà, on s'arrête là.